Bonjour à chacun, à chacune. Qui dit 6 septembre dit début d'une nouvelle année scolaire. Et donc, on va commencer aussi aujourd'hui un parcours de prédication qui va nous mener à peu près jusqu'à Noël, un tout petit peu avant, où on va parcourir ensemble la lettre de 1 Pierre. Timéo mange avec ses collègues de travail. Je crois pas que quelqu'un s'appelle Timéo ici. Quelqu'un lance devant tout le monde, en plaisantant à moitié, « Ah oui, c'est vrai, toi tu vas à l'église le dimanche matin, pendant que nous, on récupère de notre cuite de la veille. » Tout le monde rigole. Rien de très méchant en apparence. Mais ce jour-là, comme tant d'autres avant, Timéo ressent ce petit pincement familier, celui de se sentir une fois de plus décalé, à côté de la plaque, comme quelqu'un de ringard ou un espèce d'illuminé aux yeux des autres, comme un étranger. Alors peut-être que ça ne se joue pas au travail pour vous, mais ça se joue ailleurs. Un repas de famille où on vous fait comprendre entre deux blagues que vos convictions chrétiennes sont un peu dépassées. Ou un poste professionnel que vous n'avez jamais obtenu sans qu'on vous le dise franchement parce que vous avez refusé de fermer les yeux sur certaines pratiques de l'entreprise. Ou alors il y a ce silence gêné qui arrive dans une conversation quand vous vous positionnez sur un choix éthique. Cette opposition est parfois très frontale et évidente, mais des fois elle est plus subtile. Elle est sous-entendue et pourtant pas moins réelle. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Cette impression d'être à contre-courant simplement par le fait d'être chrétien, d'être chrétienne. Alors on pourrait croire que c'est propre à notre époque. Alors que nous vivons dans une France de plus en plus sécularisée et qui compte aujourd'hui 1,5% de chrétiens évangéliques. En réalité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va donc parcourir cette lettre qui est attribuée à l'apôtre Pierre, qu'il écrit vers le début des années 60 à des chrétiens qui sont dispersés un peu partout en Asie mineure, ce qui correspond à peu près à la Turquie actuelle. Et eux non plus ne risquaient pas encore à ce moment-là leur vie pour leur foi. Ça viendra plus tard. Mais déjà, ces croyants subissaient le mépris, la moquerie, l'exclusion sociale et parfois professionnelle, simplement parce qu'ils suivaient Jésus-Christ et se démarquaient ainsi par certaines pratiques et des choix de vie radicalement différents. Quand cela se produit dans votre vie, à quoi vous raccrochez-vous devant cette pression qui est souvent pénible, peut-être éprouvante. Vers qui ou vers quoi vous tournez-vous? Qu'est-ce qui vous réconforte sur le moment ou peut-être après coup? Je vous invite à lire et ou écouter ce que l'apôtre Pierre dit à ces chrétiens sous pression. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Jusqu'ici, c'était donc la lecture de la parole de Dieu. Dès le début de sa lettre, on voit que Pierre appelle ses destinataires des étrangers. Et c'est une allusion volontaire et au peuple d'Israël. En fait, on en verra plusieurs tout au long de notre parcours de cette lettre de Pierre. Ce peuple d'Israël qui était en exil à Babylone, loin de sa patrie. Et tout comme Israël, exilé dans un pays étranger, restait malgré tout le peuple de Dieu, ces chrétiens appartiennent à Dieu tout en vivant dans un monde auquel ils n'appartiennent plus vraiment. Et Pierre n'est pas en train de minimiser les épreuves qu'ils traversent ou de les inviter à serrer les dents. Il ne leur dit pas « Allez, ça va passer, c'est des mauvaises minutes et puis ça va aller. » Il leur donne trois vérités auxquelles se raccrocher pour persévérer face à cette pression. Et j'espère que ces trois vérités nous encourageront ce matin. Pierre ne commence pas tout de suite à évoquer leurs épreuves, mais il commence par rappeler à ses lecteurs combien leur salut et donc leur identité est solide. Et je prie vraiment que ce soit la première chose que nous fassions quand nous sommes éprouvés. Revenons constamment à notre identité. Et Pierre va le faire par une succession de vérités fondamentales qu'on peut voir un peu comme des vrais rocs dans nos vies. Dès sa salutation, en fait, Pierre condense en une seule phrase tout le message de l'Évangile en soulignant que les trois personnes de la Trinité sont impliquées dans notre salut. D'abord, il nous parle de l'élection du Père. Cela est revenu ce matin dans différentes prières. Nous avons été choisis, nous avons été élus conformément à la préscience de Dieu, le Père. Il y aurait tellement de choses à dire sur cela et on n'a pas le temps de parler de ce sujet qui n'est pas non plus facile, de l'élection de Dieu. Mais en tout cas, ce qui ressort de cela, c'est que ce choix que Dieu a fait dans l'éternité passée, alors que nous n'étions même pas encore nés, ne dépend d'aucun mérite, d'aucune qualité que nous posséderions. C'est Charles Spurgeon qui disait avec beaucoup d'humour que Dieu avait sûrement dû les lire avant sa naissance, parce qu'il n'aurait jamais trouvé, après coup, la moindre raison valable de le choisir. Et en fait, on pourrait tous dire la même chose. Après l'élection du Père, la sanctification par l'Esprit. Il ne s'agit pas ici de la transformation progressive de notre vie à la ressemblance de Christ, mais Pierre fait allusion à cet acte par lequel l'Esprit nous a conduits à l'obéissance initiale, à cette foi qui sauve, où l'on a été mis à part une fois pour toutes, pour Dieu, et où nous lui appartenons. Enfin, la purification par le Fils. Remarquez cette formule, être purifié par le sang de Jésus-Christ. Là encore, ce n'est pas des mots choisis au hasard par Pierre, mais il fait ici un clin d'œil direct à Exode 24, parce que d'autres traductions ont traduit l'aspersion du sang, et on voit Moïse qui asperge le peuple d'Israël du sang du sacrifice pour sceller l'alliance au mont Sinaï. Ce qui s'est passé à la croix accomplit et dépasse infiniment ce qui s'était passé ce jour-là sur cette montagne. Le Père choisit, l'Esprit met à part, le Fils purifie. Notre salut est solide parce que toute la Trinité s'est mise en action pour nous sauver. Et ce n'est pas fini. Pierre continue. Dieu, dans sa grande bonté, nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. On en a déjà parlé, mais je repose la question. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre espoir et espérance ? Contrairement à nos espoirs humains, et on peut en avoir, l'espoir de réussir sa carrière, l'espoir de voir grandir ses enfants, l'espoir de vieillir en bonne santé, ces espoirs-là restent fragiles et incertains. On n'est pas sûr que cela se réalise. Mais l'espérance, c'est l'attente certaine d'un événement futur. L'attente certaine d'un événement futur. Et cette espérance, elle est dite vivante parce qu'elle repose sur un fait qui est historique. La résurrection de Jésus. Vous savez, le pire que la persécution puisse faire dans nos vies, c'est nous tuer. Et on a des frères et des sœurs à travers le monde qui vivent cette réalité. Mais Pierre lui-même en sait quelque chose. La mort de Jésus, son maître, avait brisé toutes ses attentes. Cela l'avait plongé dans le désespoir. Mais c'est ce même homme brisé que la résurrection a transformé en un témoin capable d'aller jusqu'à mourir en martyr pour Jésus-Christ. Parce que Christ est réellement ressuscité, nous savons avec certitude qu'il nous ressuscitera aussi. C'est notre espérance. Et ce n'est pas tout, Pierre continue de poser des rocs. Regardez encore cette description de notre héritage. Il ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Et en fait, il ne peut pas se dégrader. Il reste inaccessible au mal et il ne perd jamais son éclat. Quelque chose qui contraste fortement avec tout ce que nous possédons ici-bas et qui peut disparaître. Notre santé peut perdre de son éclat. Notre argent peut nous être enlevé. Notre réputation, notre travail, tous nos biens. Et pour finir d'établir cette solidité de notre salut, Pierre rappelle que notre héritage nous est réservé au ciel. Et regardez encore cela. Et que nous-mêmes, nous sommes gardés sur terre par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Est-ce que vous voyez cette double sécurité qui est en jeu ici ? Le Dieu qui garde précieusement notre héritage, là-haut, est aussi celui qui va nous y conduire, ici-bas, en soutenant notre foi par sa puissance, et ce, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons. Dieu n'est pas en train de nous mettre sous cloche pour nous éviter toutes les épreuves possibles sur cette terre. Non. Mais il promet de nous garder dans la foi au milieu de ces difficultés jusqu'au salut final. Je pense que vous avez déjà entendu toutes ces histoires de personnes étrangères vivant en France qui reçoivent la nationalité française sur décision des grandes instances politiques pour avoir sauvé la vie de personnes, parfois au péril de leur propre vie. Du jour au lendemain, leur avenir en France est blindé par la plus haute autorité qui soit. Voilà une image de ce que Pierre nous décrit ici. La plus haute autorité de l'univers a garanti notre avenir. Il est assuré et rien ne peut nous l'enlever. Mais Pierre ne prétend pas que cette sécurité spirituelle nous évite des épreuves dans ce monde. Il reconnaît que ses destinataires sont, pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves. Pierre, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais s'adresse à des croyants qui sont attristés. On doit entendre cela parce que vous avez peut-être aussi déjà entendu qu'un chrétien ne devrait jamais être triste. C'est faux. Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, je vous invite ou réinvite à ouvrir le livre des psaumes. La Bible est toujours réaliste sur les épreuves et la souffrance que celles-ci peuvent engendrer dans nos vies. Les épreuves sont le lot de tout être humain. La maladie, le deuil, la pauvreté, l'injustice. Mais il y a aussi toutes ces épreuves qui touchent spécifiquement les chrétiens qui professent leur foi en Jésus-Christ. Un jour ou l'autre, si ce n'est pas déjà le cas dans votre vie, nous souffrirons. Et il y a de la place dans nos vies pour crier notre souffrance, notre incompréhension à Dieu et implorer son secours. Mais l'épreuve n'est pas incompatible avec la joie. À ces chrétiens qui sont éprouvés, Pierre leur dit, c'est là ce qui fait votre joie. C'est quoi le « c'est là ce qui fait votre joie » C'est quoi cette source de joie dont il s'agit? Eh bien, c'est de tout ce que Pierre a dit dans les 5 premiers versets, de notre salut, de l'héritage, de l'avenir que Dieu nous réserve. Pierre, il n'est pas en train de nous demander de nous réjouir des épreuves en elles-mêmes. La souffrance est toujours le rappel que le mal existe dans ce monde. Mais les épreuves que nous expérimentons en tant que croyants ont un but. Dieu, dans sa souveraineté, les utilise pour purifier notre foi comme l'or est éprouvé par le feu. La souffrance affine et affermit notre foi. Elle révèle ce qui soutient réellement notre vie. Rappelez-vous la parabole du semeur. La graine de l'évangile qui tombe sur le terrain pierreux ne peut pas prendre racine. Il nous est dit que lorsque survient l'épreuve, les personnes abandonnent tout. Leur foi est illusoire, elle est passagère. Mais une personne dont la foi est authentique persévérera dans la confiance en Dieu. Non pas parce qu'elle est forte, mais parce que Dieu la gardera dans la foi. Est-ce que vous êtes déjà monté sur des montagnes russes ? Je crois qu'on connaît tous la joie montagne russe sur cette terre. Si notre joie dépend de notre argent, alors elle montera et elle descendra avec ce qu'il y a sur notre compte bancaire. Si elle dépend d'une relation avec quelqu'un, elle variera selon le comportement de cette personne. Si elle dépend de notre statut social, alors elle disparaîtra lorsque nous nous sentons rejetés. Mais si notre joie est enracinée dans cette espérance de notre salut, elle restera stable, quelles que soient les circonstances de notre vie sur cette terre. Alors, on n'a pas à faire semblant que tout va bien. On n'a pas à nier le fait que nous passons par l'épreuve, par le fait que nous traversons un moment où nous souffrons dans notre vie. Mais nous pouvons traverser l'épreuve en ne perdant jamais de vue à qui nous appartenons et où nous allons. On va perdre beaucoup de choses dans notre vie sur cette terre, mais rien ne pourra jamais nous enlever cette joie au fond de nous de connaître Jésus-Christ. Et si Christ est tout ce qu'il nous reste, alors il se pourrait bien que l'épreuve même nous amène à réaliser qu'il est réellement tout ce dont nous avons besoin. Troisième vérité à laquelle se raccrocher. Est-ce que vous avez déjà demandé si vous pouviez remonter le temps, à quelle époque vous auriez aimé vivre ? Est-ce que certains peut-être diraient « Ah ouais, moi j'aimerais bien retourner au temps de Moïse et être témoin là, de cette mer qui s'est ouverte en deux et de tout le peuple qui a traversé à pied sec. » D'autres diraient peut-être « Moi, j'aimerais tellement être sur cette montagne avec Jésus, entendre son enseignement de ce sermon, cet enseignement qu'il a donné sur cette montagne ou sur ce chemin d'Emmaüs avec les disciples. » Dans les derniers versets de ce passage qu'on a lu ce matin, Pierre nous dit que les prophètes de l'Ancien Testament auraient donné cher pour vivre à notre époque. Je relis, « Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Ça sonne série télé, ça, hein, enquête spéciale et tout ça. « Cherchant à sonder à quelle époque, dans quelles circonstances, le Christ annoncé par l'Esprit qui était déjà en eux, allait enfin venir. Et il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous. » Donc Pierre écrit à ses premiers chrétiens en l'an 60, mais c'est valable pour nous aussi aujourd'hui. Autrement dit, non merci à cette machine à voyager dans le temps, parce que nous vivons du bon côté de la croix. Nous vivons une époque privilégiée. Ce que les prophètes ont annoncé sans le voir s'accomplir, nous en sommes aujourd'hui au bénéfice. Christ est venu, il s'est révélé, il a donné sa vie, il est ressuscité, il est monté au ciel. Nous le connaissons, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes dans cette ère où l'Esprit de Dieu habite chaque croyant. Et Pierre va même encore plus loin. Il dit « Même les anges désirent plonger leur regard dans ce salut qui nous est offert. » Eux qui ont contemplé toute l'histoire du plan de Dieu depuis la salle du trône céleste n'expérimenteront jamais, jamais, jamais ce que l'on peut ressentir quand on fait l'expérience du soulagement, l'expérience de la joie, de la libération et de l'émerveillement d'être un pécheur pardonné. Je termine. À quoi se raccrocher dans l'épreuve quand les choses sont difficiles, quand on sent cette pression, cette tension, parce qu'on est chrétien ou quelles que soient les épreuves aussi qui sont le lot de tout être humain sur cette terre. À quoi nous raccrocher dans ce moment-là? Trois vérités, comme des socles. Vous avez un salut qui est solide. vous avez une espérance joyeuse et vous vivez à une époque privilégiée. Est-ce que vous savez pourquoi une étudiante en médecine accepte des années d'études et de sacrifices? Parce qu'elle regarde vers ce qu'elle espère devenir. Pourquoi est-ce qu'un couple accepte de travailler pendant des mois pour rénover une maison? Parce qu'il regarde vers le jour où il aura la joie d'y habiter. Pourquoi un enfant qui vient de rentrer à l'école nous pose parmi ses premières questions, c'est quand les vacances? Parce qu'il a besoin de savoir quand elles seront pour se donner du courage pour vivre ses 6 premières semaines de cours. Nous sommes capables de supporter de longues épreuves lorsque nous savons que ce qui nous attend en vaut la peine. Pierre nous encourage à vivre de cette manière et je n'ai rien d'autre à vous proposer ce matin. Gardons nos yeux fixés sur cette espérance certaine et joyeuse de cette vie éternelle avec Jésus-Christ. Je priais. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour cette joie que tu mets dans nos cœurs et que tu nous rappelles encore ce matin. Et je prie que pour toutes celles et ceux parmi nous ce matin et qui connaissent l'épreuve en ce moment, qui connaissent la souffrance, puissent se rattacher à ces vérités profondes et perpétuelles, valables encore pour nous aujourd'hui. Garde-nous près de toi, Seigneur. Garde-nous près de ton cœur. Garde-nous de l'incrédulité. Garde-nous dans cette foi, cette confiance, malgré les tempêtes, malgré le contre-courant. Garde-nous les yeux fixés sur ce qui nous réserve, sur ce moment où on sera face à face avec Christ et qui va nous combler d'une joie que même le meilleur des moments sur cette terre sera pâle à côté de cela. Je te prie ce matin que si parmi nous, certains n'ont pas cette espérance, ne connaissent pas encore Christ, n'ont peut-être pas pris cette décision de confier leur vie à Jésus-Christ, que cela soit un encouragement et que tu les appelles, Seigneur, que tu te révèles et que tu leur permettes de plier les genoux devant toi. C'est notre prière. Amen.